Vous êtes sur RTL.
18h. L'heure de retrouver notre duo de choc, Marion Calais, Julien Cellier, pour RTL Soir. Bonsoir vous deux.
Bonsoir Céline. Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec à la une le pied de nez de l'imam Iqiyoussen. La Belgique refuse de l'extrader vers la France et le religieux s'exprime pour la première fois.
Il se présente comme un progressiste et tacle Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur avait fait de son expulsion de l'Hexagone une affaire personnelle. À suivre aussi la nouvelle salve de missiles russes en Ukraine et des cas de torture et d'exécution dévoilés. Et avant de partir, le soutien financier des Bleus pour la défense des droits humains au Qatar.
Et tiens, 18h15, document RTL, Adrien Rabiot, l'un des nouveaux patrons du milieu de terrain des Bleus, se confie au micro RTL M6 de Philippe Sanfourche, entretien à la veille du départ pour la Coupe du Monde. L'actualité, c'est aussi le rush à la pompe, dernières heures avant la baisse des ristournes du gouvernement et de Total. C'est notre fil rouge ce soir. Vincent Serrano, reporter RTL, vient de partir de la rédaction et tente de faire le plein avant de rentrer à la maison du côté de Villepinte en banlieue nord. Vincent, bonsoir, où en êtes-vous ?
Bonsoir Julien, écoutez, c'est pas facile, hein. On le savait, mais c'est pas facile. 25 km à faire en partant sur la réserve, donc à peu près 50 km encore dans le réservoir. Première station croisée, pas vraiment de file d'attente, mais le prix au litre était bien au-dessus de 2 euros. Je suis donc entré sur le périphérique, direction la station Total de la porte de Clignancourt, et la surprise, pas de prix, pas de voiture, pas de caisse ouverte, enfin bref, pas d'essence disponible. Je vous ai dit que c'était difficile, je suis donc parti sur la 1, ça commence à être tendu niveau essence, sorti le Bourget, et là je me trouve devant la station Total Access. Il y a de l'attente, une dizaine de voitures devant moi, ça patiente même sur le carrefour derrière, en feu de détresse, en attendant son tour. Pas de gasoil disponible ici, ça tombe bien, c'est de l'essence que je cherche. On croise les doigts pour que ça tienne d'ici là.
Bon, vous avez de gros muscles, au pire, pour pousser cette voiture. À 18h30, laissez-vous tenter dernière. Gad Elmaleh de retour au cinéma en chrétien converti. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Signy à la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu.
La mascotte de Paris 2024 est made in China. Alors face à la polémique, vous saurez combien elle coûterait vraiment si on la fabriquait en France. Et puis d'abord, est-ce qu'on pourrait même la fabriquer en France? Toutes les réponses à venir. Au menu également, le duo d'Anne Hidalgo qui fait encore des siennes et votre tour en bateau sur la route du Rhum.
19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et Aurélie Arbemont. Le temps avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain.
Nouvelle perturbation bien pluvieuse sur le nord-ouest et plus calme ailleurs.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et d'abord donc ce double camouflet pour Gérald Darmanin dans l'affaire de l'imam Iqiyoussen.
Dont le ministre de l'Intérieur avait annoncé l'expulsion cet été. C'était sans compter sa fuite en Belgique où la justice, premier camouflet, a refusé aujourd'hui son extradition vers la France.
Bonsoir Hélène Loison.
Bonsoir.
Correspondante de RTL en Belgique, la cour d'appel de Mons rejette donc le mandat d'arrêt européen émis par la France.
Oui, pour la deuxième fois, la justice belge s'oppose à l'exécution du mandat d'arrêt européen, une décision de forme, mais pas sur le fond des accusations portées contre l'imam, insiste François Demoulin, le substitut du procureur général de Mons.
C'est essentiellement une question de procédure. Les faits qui sont en réalité à la base du mandat d'arrêt européen décerné le 31 août 2022 ne sont pas constitutifs en droit belge d'une infraction. Et donc, dans ces cas-là, on considère que le mandat d'arrêt européen ne doit pas être exécuté.
Le sort de l'imam en Belgique est désormais entre les mains du parquet qui a 24 heures pour faire appel. Si le parquet décide de se pourvoir en cassation, l'imam reste sous surveillance électronique en attendant une nouvelle audience dans les prochaines semaines. Si le parquet renonce à cette démarche, Hassan Iqiyoussen pourra alors être libéré de son bracelet électronique dès demain. Ce serait le début d'un nouveau volet dans cette affaire car il serait alors résident irrégulier sur le territoire belge.
Et peu après l'annonce de la décision de la justice belge, cette interview de l'imam Iqiyoussen dans Le Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
C'est le second camouflet pour le ministre de l'Intérieur qui n'est pas épargné par l'imam.
Oui, au cours de cet entretien, Hassan Iqiyoussen développe sa propre analyse concernant les 3 mois qui se sont écoulés. Peut-être que Gérald Darmanin avait besoin d'un marchepied, dit-il. Il a voulu faire de moi un exemple pour doubler ses mentors de droite, voire l'extrême droite. L'imam se souvient également de cette discussion qu'il a eue en 2014 avec l'actuel ministre de l'Intérieur à Tourcoing. Vous êtes une personne ouverte, lui aurait dit Gérald Darmanin, qui aurait même conclu par cette cette phrase, si tout le monde était comme vous, on n'aurait pas de problème avec certains musulmans.
L'imam qui tente dans cette interview, Guillaume, de se présenter alors sous son meilleur jour, lui qui, on le rappelle, est accusé d'avoir tenu des propos antisémites, misogynes et contraires aux valeurs de la République.
Ouais, d'ailleurs, l'imam commence par une forme de mea culpa. J'ai dit des choses qui étaient condamnables. Je suis disposé à accepter les reproches, même un procès, mais pas une expulsion. Sur ces différentes prises de parole qui lui ont valu d'être poursuivi en France, Hassan Iqiyoussen évacue depuis 40 ans. Je prône le vivre ensemble, misogynie, antisémitisme. Il balaye tout ça d'un revers de la main et renvoie vers ses centaines d'heures de conférences en vidéo toujours disponible sur Internet.
Alors ce soir, le ministre de l'Intérieur n'a pas encore réagi, mais il a été pris à partie par la députée Rassemblement National, Laure Lavalette, lors des questions au gouvernement, au moment où il était question de l'Ocean Viking et du sort de certains des 234 rescapés du bateau. 44 d'entre eux sont expulsés. Ce vif échange, le voici.
Chaos, Stade de France, mensonge d'État sur les supporters anglais, explosion des atteintes aux personnes, pire chiffre sécurité depuis des décennies. Humiliation par un imam étranger, abandon de Mayotte, crise migratoire dans la Manche et accostage de bateaux de migrants dans le sud. Merci. Dans une démocratie normale, on aurait des...
La vérité, c'est que nous avons secouru des femmes et des enfants que malheureusement l'Italie n'a pas voulu secourir. La vérité, madame la députée, c'est que vous n'êtes pas apte au pouvoir parce que vous n'êtes pas apte à prendre des décisions difficiles en regardant les Français dans les yeux. Et je m'enorgueillis, madame la députée, que soit cette majorité qui soit au pouvoir pour sauver ces enfants-là. Avec vous, on sait ce qui serait devenu.
Voilà, Gérald Darmanin face à Laure Lavalette, la députée Rassemblement National à l'Assemblée. Selon les derniers éléments, une soixantaine des rescapés de l'Ocean Viking ont vu leur demande d'asile acceptée. Le gouvernement interrogé aussi sur les retraites dans l'hémicycle. L'entrée en vigueur de la réforme été 2023, a dit la première ministre. Oui, il faudra travailler un peu plus longtemps, a-t-elle dit. Et alors que s'annonce la fin de certains régimes spéciaux, les syndicats d'électriciens, de gaziers et de la RATP s'indignent, certains brandissant même déjà la menace d'une mobilisation.
RTL Soir.
Les sirènes ont donc retenti de nouveau en Ukraine et d'après l'armée, ce sont une centaine de missiles qui ont été tirés aujourd'hui par la Russie.
Nouvelle frappe visant des infrastructures énergétiques. La moitié des habitants de Kiev, où les frappes ont fait un mort, sont ce soir sans électricité. Des coupures d'électricité également signalées à l'instant en Moldavie. Les villes de Lviv à l'ouest et de Kharkiv dans le nord-est ont aussi été touchées. L'Ukraine demande au G20 une réaction de principe. La Maison Blanche dit-elle que ces frappes ne font qu'approfondir ses préoccupations.
De son côté, l'ONU s'est inquiétée aujourd'hui du sort réservé aux prisonniers de guerre, côté russe et côté ukrainien, avec des cas de torture recensés.
Et ça peut même aller plus loin. Bonsoir Julien Fautra. Ça peut donc, comme le montre cette vidéo diffusée sur des comptes pro-russes et qui montre des mercenaires de la force Wagner en train d'exécuter un homme.
Oui, Wagner est un groupe barbare et envie que ça se sache. Et on ne fera pas mine de découvrir que la guerre c'est cruel, mais la propagande par les réseaux sociaux arrive désormais dans tous les foyers du monde. Un homme a les mains attachées, la tête fixée par un film plastique sur un objet dur, ce qui pourrait être une brique ou un parpaing. Quelques mots pour expliquer son parcours, puis il est violemment interrompu, un coup de masse qui vient lui écraser la tête, filmé en gros plan. Le bourreau s'acharne ensuite, cette masse à la main. L'homme assassiné a combattu auprès de Wagner, puis est accusé d'avoir déserté, de s'être rangé côté ukrainien, prétextant que cette guerre était une agression de la Russie. Il a enfin été capturé, il s'appelait Evgeny Nougine, 52 ans. Ces méthodes d'intimidation ont été expérimentées par Wagner en Syrie. Déjà une masse, c'était en 2019. Déjà un homme accusé de déserter, effrayé par les méthodes abominables de ce groupe paramilitaire proche du Kremlin. Aucune condamnation des autorités russes, d'ailleurs, aujourd'hui. L'objectif est de faire peur, dissuader ceux qui s'imagineraient désertés. C'est une exécution publique. Puisque viral, ce film devrait s'appeler « Une mort de chien pour un chien ». La phrase est signée du patron de Wagner, satisfait de son effet.
Moscou, par ailleurs, accusé d'envoyer sur le front ukrainien des détenus africains prisonniers en Russie. La Zambie a annoncé hier la mort d'un de ses ressortissants sur place alors qu'il était censé être détenu près de Moscou.
Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec des Bleus qui veulent boucler le dossier des droits humains avant de s'envoler pour le Qatar et avec Ovalie, égérie du prochain salon de l'agriculture. On va vous la présenter, à tout de suite.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL. RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
18h11, la suite de votre journal dans RTL Soir. Le capitaine Hugo Lloris l'avait annoncé et les Bleus n'ont pas traîné pour détailler le fameux geste promis pour la défense des droits humains au Qatar.
Bonsoir Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
À la veille de leur départ pour le Mondial, les joueurs de l'équipe de France ont publié une lettre collective sur les réseaux sociaux et leur engagement sera donc financier.
Oui, à travers ce fonds de dotation créé il y a un an par les champions du monde auxquels se sont associés tous les joueurs de cette campagne ainsi que les membres du staff. Génération 2018 lève des fonds, implique des joueurs dans des projets afin de donner du temps à certaines causes. Notre passion, dit le communiqué, ne doit pas être la cause du malheur de certains. Faire quelque chose est normal, précise le défenseur Benjamin Pavard.
Je trouve que on n'en parlait pas assez avant. Ça fait 10 ans qu'on y a ces problèmes-là, on en parle seulement maintenant. Nous, on essaye de faire notre maximum. Je pense qu'on a répondu à travers cette lettre-là. Et maintenant, on va se concentrer sur le terrain, parce que c'est ça le plus important de cette compétition.
Nous voulons, indique le collectif, rappeler notre attachement au respect des droits humains, alors que le Qatar, ces derniers jours, ces dernières heures, a décidé de hausser le ton face aux critiques et contestations. Convocation de diplomates, mais aussi options juridiques à l'étude contre, je cite, les auteurs d'allégations sans fondement.
Et coup d'envoi de ce mondial dimanche. Ces Bleus-là jouent ce soir à 20h30 contre l'Allemagne. Les joueuses de l'équipe de France de handball, un championnat olympique en titre, joue leur place en demi-finale. Pour elle, pas de ballon rond et pour cause, elle s'appelle Ovalie.
C'est cette vache salaire qui a été choisie comme égérie du prochain salon de l'agriculture. Guillaume Frixon, vous êtes allé la rencontrer, elle et ses éleveurs, pour RTL dans le Cantal.
Oui, même s'ils ont appris la nouvelle avant l'été, Marine et Michel Van Simertier ne réalisent pas vraiment ce qui les attend jusqu'au salon de l'agriculture. Mais une chose est sûre, leur vache salaire Ovalie et sa robe à cajou devraient faire chavirer bien des cœurs.
C'est la plus belle parce que elle répond bien déjà aux caractéristiques de la race. Elle a une belle tête avec les cornes en forme de lyre et il y a beaucoup d'émotions.
Trentenaire, ce couple n'est pas issu du monde agricole. Installé depuis 5 ans ici à plus de 1000 mètres d'altitude, les deux éleveurs veulent avant tout profiter de l'instant.
C'est vrai que c'est une fierté, on est toujours étonné, surpris. Enfin, c'est un bonheur qu'il faut prendre comme il vient et puis représenter au mieux finalement l'ensemble de l'élevage et du milieu agricole français.
Alors en haut de l'affiche aujourd'hui et sous les projecteurs en février prochain, Ovalie va être encore plus choyée qu'à l'accoutumée.
Ça va être un petit peu la star de l'exploitation, donc on va forcément la chouchouter.
Mais pour l'instant, Marine et Michel s'activent pour trouver un remplaçant pour leur ferme car ils iront au salon de l'agriculture tous les deux. Avec Ovalie.
Évidemment. Merci Guillaume Frixon dans le Cantal pour RTL.
Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain. Peggy, ce sera mieux qu'aujourd'hui ou pas?
Alors ce sera mieux par endroit. Ah. Oui, en effet, ça va s'améliorer sur l'est du pays et dans le sud. Mais sur le nord-ouest, on va garder.
Ici,
voilà, on va garder quand même des précipitations. Alors en Ile-de-France, ça devrait aller mieux quand même. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours le matin des averses sur la façade est parce qu'elles sont en train de s'évacuer. En revanche, en Corse, ça restera bien pluvieux avec des averses soutenues et orageuses. La Corse du sud d'ailleurs est toujours en vigilance orange inondation et aux orages jusqu'à 6h demain matin. Sur le nord-ouest, sur le littoral, on aura des averses orageuses. Partout ailleurs, un temps plus sec, souvent nuageux, sauf sur l'extrême sud entre les Pyrénées et la Méditerranée. Dans l'après-midi, une nouvelle perturbation pluvieuse va concerner le nord-ouest avec de fortes pluies, de fortes rafales de vent entre la Bretagne, essentiellement la Normandie et la Vendée. Elle va glisser vers le nord par la suite plutôt en soirée. Donc partout ailleurs, on a un temps souvent gris sur le nord avec quelques averses sur le nord-est. Et dans le sud, c'est plutôt sec et même bien lumineux sur le sud-est, un peu moins sur le sud-ouest, mais quoi qu'il en soit, on va garder de la luminosité et puis ça va s'améliorer en Corse, tout ça sous des températures de saison, de 12 à Langres, 21 à Toulon, 20 à Marseille, 18 à Toulouse, 17 à Bordeaux et 15 à Paris.
Merci Peggy.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
Et on va retrouver notre fil rouge maintenant dans RTL Soir. Notre reporter RTL Vincent Serrano est donc parti. Allez, il y a trois quarts d'heure de la rédaction à Neuilly-sur-Seine, ouais, banlieue ouest de Paris. Il veut faire le plein avant de rentrer à la maison du côté de Villepinte en banlieue nord. On vous retrouve Vincent. Vous faisiez tout à l'heure la queue à une station essence. Enfin une station essence avec de l'essence pour la voiture RTL. Où en êtes-vous? Ouais.
Ça partait bien, Julien. Ça partait bien. Il y avait, plus que deux voitures devant nous. Et d'un seul coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le panneau d'affichage des prix s'est éteint. Défilé de voitures en marche arrière, les clignotants. Oui, plus d'essence disponible ici. C'est très bref à chaque fois. De toute façon, les automobilistes ne cherchent pas vraiment à comprendre. Faut faire au plus vite. ce que j'ai fait. Donc demi-tour, juste à côté de cette station Total Access du Bourget. Il y en a une autre juste en face sur le trottoir d'en face, mais il y avait vraiment beaucoup trop de monde, une file d'attente trop importante. Alors j'ai donc fait comme beaucoup d'autres ici, sur le GPS, vous savez, vous avez les stations-service les plus proches et à chaque fois, l'application vous indique si elle est ouverte ou non. Et en fait, le plus judicieux pour moi, c'était de faire demi-tour, rendez-vous compte sur l'A1, sur une autre station Total. Où on se trouve là actuellement, je ne sais pas si vous entendez derrière moi les voitures justement sur l'autoroute. Et là, bon, on est vraiment sur du typique, ce qui se passait quand il y avait une pénurie d'essence. C'est-à-dire que là, il y a une vingtaine de voitures devant nous. Donc on n'est pas encore rendu. Il y a même les policiers, les gendarmes à moto qui sont là pour contrôler le flux et faire en sorte que, voilà, qu'on puisse patienter dans le calme. Je suis allé me renseigner, il y a de l'essence, il y a du gasoil aussi. Mais bon, comme je vous le dis, là, il y a une vingtaine de véhicules devant nous. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'essence et de gasoil. Ça devrait le faire, je crois.
Affaire à suivre. Vraiment,
et c'est vraiment très compliqué. J'ai croisé un automobiliste juste avant qui m'expliquait que là, ce qui s'est passé à la station Total Access du Bourget, il en avait fait 4 avant et c'était la même chose. À chaque fois, les prix s'éteignent et puis voilà, il faut chercher
une
autre solution.
Une station sur 5 manque de carburant ce soir dans notre pays. C'est évidemment un chiffre qui est différent selon les régions. Ça a l'air d'être plus compliqué, on l'a compris, en Ile-de-France ce soir. 18h17, à minuit, ce sera la baisse officielle des ristournes du gouvernement et de Total. Ce rush avant la hausse des prix dans nos stations essence. On vous suit en fil rouge dans ce parcours du combattant. Cher Vincent Serrano, petite pause et puis les confidences d'un bleu sur RTL. Adrien Rabiot a répondu aux questions de Philippe Sanfourche à la veille du départ à la Coupe du Monde au Qatar. Entretien avec le milieu de terrain de l'équipe de France juste après ça.
Julien Cellier.
RTL soir jusqu'à 10. RTL.
Coupe du Monde 2022.
Bonne fin de journée avec RTL soir, J-5 avant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Les Bleus s'envoleront demain pour le Qatar. Et à la veille de ce départ, un entretien RTL M6 maintenant avec l'un de nos joueurs, l'un des nouveaux patrons du milieu de terrain, Adrien Rabiot, s'est confié cet après-midi à Philippe Sanfourche. En 2018, souvenez-vous, il avait décliné une place de simple réserviste sur liste d'attente. Le staff n'avait pas apprécié. Rabiot a dû faire ses preuves pour revenir en bleu ces dernières années. Cette fois, le joueur de la Juventus Turin et du voyage. Interview exclusive.
Bonsoir Adrien Rabiot.
Bonsoir.
Alors merci beaucoup tout d'abord d'avoir accepté cette invitation juste avant de partir pour le Qatar. Vous êtes l'un des hommes les plus attendus. La France entière veut savoir qui va pouvoir remplacer N'Golo Kanté et Paul Pogba. Est-ce que vous ressentez cette attente énorme autour de vous ?
Autour de moi personnellement, non. Après c'est vrai que je regarde pas énormément les réseaux, ce qui se dit. Je sais qu'il y a une attente particulière autour de l'équipe de France et de tous les joueurs. Mais j'essaie de rester concentré. J'essaie de rester concentré sur ce que j'ai à faire et voilà, pas trop regarder à droite à gauche.
Il y a quand même un regard qui est posé sur vous. Est-ce que ça vous plaît d'avoir cette responsabilité aujourd'hui ?
Bien sûr, ça me plaît. Ça me plaît d'être là. Ça me plaît d'être en haut de l'affiche. Faire ce que finalement... j'ai envie de faire depuis très longtemps, c'est-à-dire jouer une Coupe du Monde. Forcément, il y aura beaucoup d'attentes et c'est normal. Mais voilà, je suis là pour répondre à tout ça.
Vous venez de le dire, Adrien, vous avez 27 ans. Vous jouez depuis maintenant 10 ans, quasiment au plus haut niveau. Mais c'est votre première Coupe du Monde. C'est un rêve de gosse qui se réalise ?
Bien sûr, c'est un rêve de gosse. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de pouvoir jouer une Coupe du Monde, pouvoir porter haute les couleurs de la France. C'est au-dessus même d'un euro, même si c'est déjà une chose extraordinaire. Là, cette Coupe du Monde, c'est penser l'apothéose.
On l'a dit, il y a des absences importantes. Et vous, de votre côté, vous avez fait votre place dans cette équipe depuis maintenant plusieurs saisons. Malgré tout, mercredi dernier, avec le passé que l'on connaît, cet épisode de 2018, quand vous avez suivi la liste, est-ce qu'il y avait un stress ou pas du tout ?
Je vais vous répondre très franchement, non, j'avais pas peur de ne pas y être parce que ça fait un moment que je suis revenu, que j'étais performant et que je sais aussi que le sélectionneur compte sur moi et tout ça, en plus des absences de Paul et d'N'Golo, j'avais beaucoup moins de pression qu'en 2018.
On dit toujours que tout va très vite dans le football, mais quand on regarde vraiment cette situation, voir où vous étiez il y a 4 ans et d'être aujourd'hui pour la Coupe du Monde de l'équipe de France, championne du monde qui doit conserver son titre, le joueur du milieu de terrain le plus expérimenté, Est-ce que vous, même dans vos rêves les plus fous, vous aviez envisagé ce scénario?
On connaît ce qui s'est passé en 2018. Tout de suite après, ma première pensée, c'était être là pour le prochain mondial. Ça m'a laissé 4 ans pour travailler et être présent. C'était un objectif important pour moi. À ce niveau-là, c'est réussi. Après, le plus gros commence, c'est d'être performant, d'aller chercher ce titre. Sur ces 4 ans-là, j'ai rien lâché. J'avais vraiment un seul objectif en tête, c'était celui-ci.
On a l'impression que votre relation avec Didier Deschamps, le sélectionneur, elle avait débuté difficilement avec cet épisode. Mais aujourd'hui, ce passé commun, ça vous a construit et vous avez une relation forte.
On a une bonne relation, c'est vrai. Mais je dirais que malgré l'épisode de 2018, on n'a jamais eu une mauvaise relation, lui et moi.
Vous êtes mieux compris depuis, on veut dire.
On s'est mieux compris. On a eu aussi l'occasion de beaucoup plus échanger. J'ai grandi aussi. Forcément, on a pu penser qu'il y avait un problème entre lui et moi, ce qui n'était pas le cas. Mais c'est vrai que depuis, on est vraiment, vraiment plus proche.
Aujourd'hui, dans ce rôle que vous allez avoir, il y a un autre joueur qui est très important et qui a émergé et qui va falloir aussi développer au plus haut niveau le plus vite possible, c'est Aurélien Tchouaméni. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un patron du milieu, comme on dit, ou est-ce que vous allez vous partager les rôles?
Moi, je suis pour que chacun prenne ses responsabilités, fasse ce qu'il sait faire de mieux sur le terrain. Je pense que c'est pas une question d'âge, ni une question d'expérience, ou qui a plus de sélections, ou il joue dans une des meilleures équipes du monde. Il sait ce qu'il attend, il sait aussi ce qu'il est capable de faire. On peut être complémentaires, sans devoir dire lui est le patron, ou lui il est un peu moins. Moi, mon rôle principal, c'est d'être, comme je suis dans mon club, un leader sur le terrain, en tirant les autres avec moi. Pour moi, ça c'est un rôle de leader, de patron, sans devoir forcément prendre la parole dans un vestiaire ou être capitaine ou être cadre, comme on dit.
Didier Deschamps a décidé pour cette Coupe du Monde de revenir à un ancien schéma tactique, une défense à 4, alors que ça faisait des mois que vous travailliez beaucoup plus sur la défense à 3. Pour vous, c'est un constat que vous aviez fait aussi entre joueurs, que c'était mieux comme ça. C'est une décision qui rassure tout le monde.
On est plus solide de cette manière-là. En étant plus solide, ça permet de mieux attaquer. Sur ce constat-là, on est tous d'accord. Après, il y a beaucoup de joueurs aussi qui jouent dans leur club, dans les défenses à 4. Devoir chambouler tout ça, c'est parfois un peu compliqué.
Pour conclure, Adrien Rabiot, les joueurs dans leur ensemble ont décidé de s'associer pour donner des fonds aux ONG qui défendent les valeurs des droits humains. Et on sait que c'est une question qui est importante en ce moment au Qatar et qui entoure toute l'actualité de cette Coupe du Monde. Est-ce que c'était important pour vous de faire ce geste et surtout de le faire maintenant avant que la compétition démarre?
Oui, bien sûr, c'était important de le faire. Il fallait faire quelque chose. C'est une bonne démarche, c'est une vraie démarche sincère. Il fallait aussi attendre que le groupe soit au complet pour pouvoir décider de tout ça. Personnellement, et le groupe l'approuve, donc c'est une bonne chose.
Et maintenant, vous allez pouvoir vous projeter sur la compétition avec le soutien aussi des Français à distance. C'est important, c'est quelque chose qui donne vraiment un boost supplémentaire dans un groupe, ça.
Bien sûr qu'on en a besoin. Après, la situation, elle est un peu particulière. Donc, on sent que parfois, les gens, ils sont un peu partagés, même ici en France. Mais c'est vrai que nous, en tant que footballeurs, en tant que joueurs qui représentons le pays dans la plus grande des compétitions, on a besoin de soutien et que... On espère qu'il y aura une grande ferveur, qu'il y aura beaucoup de soutien, puis on espère rendre les gens heureux. On est des compétiteurs, l'objectif c'est d'aller au bout, de garder notre titre. Ce ne sera pas chose simple. En étant tenant du titre, c'est encore plus compliqué, tout le monde veut nous battre. Mais je pense que c'est aussi un bon défi et c'est le meilleur moyen de montrer qui nous sommes.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Adrien Rabiot.
Merci.
Document RTL M6, les confidences d'Adrien Rabiot ce soir au micro de Philippe Sanfourche à la veille du départ des Bleus pour le Qatar. Philippe et Amandine Bégaud recevront par ailleurs, noté le rendez-vous, Didier Deschamps demain matin 7h40 sur RTL. Entretien exceptionnel avec le sélectionneur des Bleus. On va marquer une petite pause et puis RTL soir avec vous toujours à la pompe. On va retrouver notre fil rouge, notre reporter qui tente désespérément de faire le plein avant la hausse des prix. À suivre aussi du foot, encore les dessous de la Coupe du Monde avec l'affaire Ronaldo qui fait trembler la planète ballon rond juste avant le mondial. Et puis laissez-vous tenter dernière, Gad Elmaleh de retour au cinéma en chrétien converti demain. À tout de suite.
RTL soir,
Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
18h31 minutes.
RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
RTL Soir vous informe les trois titres à retenir en cette fin de journée, Marion.
La décision de la justice belge dans l'affaire Iqiyoussen, la demande d'extradition de l'imam formulée par la France a été rejetée. La nouvelle salve russe sur l'Ukraine, une centaine de frappes recensées aujourd'hui. 7 millions de foyers ukrainiens sont privés d'électricité. Et puis deux défaites en deux matchs. Raphaël Nadal au bord de l'élimination au Masters de Turin.
Tendance météo pour demain, Peggy.
Un temps à nouveau perturbé, une perturbation bien pluvieuse sur le nord-ouest, surtout l'après-midi avec beaucoup de vent. Et je rappelle que la Corse du Sud est toujours en vigilance orange aux orages et pluies inondations jusqu'à demain 6h.
Et puis le fil rouge de RTL Soir, notre reporter RTL Vincent Serrano qui est parti de la rédaction à la veille de la hausse des prix à la pompe pour tenter de remplir le réservoir de la voiture RTL direction la banlieue nord. C'est toujours aussi compliqué, Vincent ?
Non, ça va, plus que 6 véhicules devant nous. La caissière, dans le fond, n'a pas l'air de s'inquiéter. Donc bon, ça devrait le faire. Mais encore une fois, beaucoup de stations autour connaissent des difficultés, on le rappelle. Hein, celle du Bourget, notamment, où on se trouvait et où j'ai eu le temps de discuter avec Achik avant qu'il reprenne la route.
C'est impossible. Là, j'ai fait 20 km, je cherche des stations. Et en plus, la mesure que l'on prit là, excusez-moi des termes, mais c'est débile d'augmenter le jour au lendemain dans la semaine pour le mercredi à combien de centimes ? J'ai fait 4, je regarde la queue, je sais pas, à 500, 600 mètres, je passe. Et là, je vais à Crépy-en-Valois, j'en ai pour 50 km. Regardez, je consulte en même temps. Où est-ce que je peux trouver ?
Bon, nous, en tout cas, on a réussi à en trouver ici en faisant demi-tour tout de même, mais on est sur des prix relativement, je dis bien relativement entre guillemets bas sur l'aire de la Courneuve. 1,67 le gasoil, ouais. Mais ça va changer dès demain à 1,97 plus 30 centimes.
Bon courage Vincent et bon courage à tous ceux qui sont sur la route ce soir.
Laissez-vous tenter dernière.
Alors, c'est pas laissez-vous tenter dernière, ce sont les dessous de la Coupe du Monde. Parce que des fois, comme ça, il y a des petites jingles qui s'entremêlent, ça arrive, ce sont les joies du direct. 18h33.
Ça nous tente aussi.
Chaque jour après 18h30, le foot nous tente. C'est la question à 5 jours du coup d'envoi maintenant. Dans quel état se trouve Cristiano Ronaldo, la superstar du foot? Bonsoir Hugo Hamelin.
Bonsoir Julien.
Parce que le Portugais vient de délivrer, on n'en a pas beaucoup parlé en France, mais l'interview la plus fracassante peut-être de la décennie dans la planète football.
Entretien à la sulfateuse à la télévision anglaise, Ronaldo démolit son propre club, Manchester United. Je me sens trahi, certaines personnes ne veulent pas de moi ici et je n'ai aucun respect pour mon entraîneur. Plus dramatique, Ronaldo évoque son deuil. Il a eu des jumeaux il y a quelques mois, le petit garçon est mort-né. La petite fille a été hospitalisée en urgence. Il a donc demandé à la direction de Manchester United de rater quelques entraînements pour rester à son chevet. Écoutez-le.
Ils n'ont pas cru que quelque chose n'allait pas. Ça m'a fait me sentir mal. Ça m'a vraiment heurté parce qu'ils ont douté de ce que j'avais dit. Et je ne suis pas allé faire la préparation à cause de ça. Je trouvais que ce n'était pas correct d'abandonner ma famille à ce moment-là.
Et pour cette sortie au lance-flamme, Ronaldo pourrait écoper d'une amende d'1 million de livres de la part de son club et être transféré dès cet hiver.
Cette interview, est-ce qu'elle vient troubler la préparation de l'équipe du Portugal ?
Eh bien peut-être, hein, parce que dans une vidéo qui circule beaucoup depuis ce matin sur les réseaux sociaux, dans le vestiaire du Portugal qui vient de se réunir pour la Coupe du Monde, on voit la star qui tend la main à l'un de ses coéquipiers et qui, après quelques secondes d'hésitation, va finalement le saluer assez froidement. Ce coéquipier, c'est Bruno Fernandes, c'est celui qui est censé lui faire des passes décisives pendant la Coupe du Monde, mais c'est aussi le capitaine de Manchester United. La séquence a été dédramatisée dans la foulée par un autre membre de la Seleção portugaise qui a évoqué une petite blague, mais Ronaldo a le cuir dur. Juste avant la Coupe du Monde 2018, il avait été contraint de verser 15 millions d'euros au fisc espagnol. Ça ne l'avait pas perturbé du tout.
4 ans plus tard, il vaut quoi, Ronaldo, au fait, aujourd'hui, alors qu'il ne joue quasiment plus en club?
L'homme aux 5 ballons d'or, il aura 38 ans en février prochain. Il n'a inscrit que 3 buts avec Manchester cette saison, dans le contexte particulier qu'on vient d'évoquer. Ronaldo, c'est vrai, il a perdu de sa superbe, mais au Qatar, le Portugal sera une équipe très solide et il visera encore des records. Le Portugais, il pourrait être le premier joueur à marquer dans 5 Coupes du Monde consécutives.
Les dessous de l'affaire Ronaldo qui secoue Portugal et Angleterre avant le Mondial. Merci beaucoup Hugo Hamelin. 18h36, cette fois c'est l'heure de Laissez-vous tenter dernière.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, laissez-vous tenter dernière. Maintenant, tiens, on va parler cinéma avec un certain Stéphane Boutsock qui nous a rejoint. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir à toutes et à tous.
Stéphane. Alors, au menu des sorties de cette semaine, un film à part demain. Oui. Son titre reste un peu de et avec Gad Elmaleh.
Bon, autant vous dire, si vous avez aimé Chouchou, si vous avez aimé Coco, vous allez être surpris. Certes, on retrouve dans ce film l'humour de Gad Elmaleh, mais on est loin de la farce ou de la comédie. Reste un peu, en fait, c'est la fiction d'un phénomène bien réel. L'humoriste, de confession juive, il raconte sa passion pour la Vierge Marie et son intention de se convertir au christianisme. Imaginez la réaction de son entourage, de sa famille et de ses potes.
Alors vous avez dit fiction, on est bien d'accord hein, Stéphane, ça n'est pas un documentaire, ça reste un peu.
Oui absolument, c'est pas du tout un documentaire, même si le film part du véritable chemin intime et religieux de Gad Elmaleh. L'histoire, que l'on soit croyant ou pas, nous interroge toutes et tous. On y parle du mystère, de la foi, des conventions, des traditions. Et pour Gad, tout part de Casablanca au Maroc, là où il a grandi. Gamin, il se glissait en cachette dans une église pour admirer une statue de Marie.
Le souvenir que j'en ai de cette expérience, je dirais mystique hein, quand même, c'est quelque chose de très puissant que mes amis athées ou agnostiques analysent comme un phénomène météorologique, architectural, pédopsychiatrique. Mais j'ai jamais eu d'apparition, j'ai jamais eu d'épiphanie comme on dit, j'ai jamais eu de révélation, non pas du tout, c'est simplement émotif au moment où je le vis, c'est un truc de sentiment, c'est un truc d'amour, c'est ce gamin qui pousse la porte, il se retrouve face à une représentation, en plus il est face à une statue, mais elle lui renvoie à quelque chose, elle s'impose à lui. Donc ce souvenir, il est très ému, il est très doux, il est bon et il m'a jamais quitté. Et je crois qu'en produisant le spectacle Bernadette à Lourdes, quand je vais à Lourdes, je me retrempe dans... Ça me remet et ça ravive ce que j'ai ressenti. C'est un peu comme un coup de foudre, au sens littéral.
Reste un peu de et avec Gad Elmaleh, mais aussi ses propres parents qui sont assez dingues en termes de tendresse et drôlerie. Vous découvrirez ça donc demain au cinéma.
Un petit mot peut-être du carton en France, Stéphane, du dernier Marvel. On en parlait avec vous la semaine passée. Absolument. À la même heure. Wakanda Forever, la suite de Black Panther.
Le film va passer ce soir les 1 800 000 entrées en une seule semaine.
Wow.
C'est simple, c'est le meilleur démarrage de l'année chez nous. Quasiment le double du premier volet en 2018. Donc autant dire que les super-héros ont de beaux jours devant eux sur nos écrans.
Voilà une bonne nouvelle pour la fréquentation
de nos cinémas. Mais ça marche bien en ce moment, hein, croisons les doigts.
Très bien, merci beaucoup Stéphane Boutsock.
Laissez-vous tenter, dernière.
Petite pause et puis la suite dans RTL Soir, c'est bien entendu On défait le monde avec le trio Cyprien Signy, Valentin Boisset, Laurent Tessier. Bonsoir,
bonsoir à tous.
Les peluches Frige ce soir, les mascottes des JO de Paris fabriquées en Chine. Et oui, pourquoi ne pas avoir choisi le Made in France? On vous explique tout juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL. It's about damn time.